En 1808, le soldat Barthélemy Duret est jugé pour désertion. Celui-ci est condamné à mort par contumace par le conseil spécial de guerre siégeant à Civita Vecchia. Mais que fait un soldat de la région de Genève dans l'armée napoléonienne? Il faut savoir que Genève a été annexée à la France en 1798. Dès lors, les Genevois sont considérés comme des Français nés. Le nouveau découpage administratif, alors mis en place, désigne Genève comme le chef-lieu du département du Léman et Barthélemy en est originaire. Nous savons que le soldat Duret a déserté, mais nous en ignorons les raisons. Nous pouvons cependant essayer de retracer son parcours à travers les livres d'histoire consacrés aux soldats napoléoniens. Barthélemy Duret est un conscrit d'une des armées de Napoléon. La conscription, instaurée par la loi du 5 septembre 1798 dans le calendrier grégorien, a bâti un système de recrutement de soldats cohérent jusqu'à la fin de l'Empire. Le système instaure le recensement de tous les jeunes gens dès qu'ils atteignent 20 ans. Ceux qui doivent partir sont désignés par tirage au sort, en fonction des quotas fixés par le ministère de la guerre. Chaque département, dont celui du Léman, doit fournir le contingent fixé par l'État à partir de la démographie de ses cantons et de ses communes. La conscription est très impopulaire et tout est tenté pour s'y soustraire. Sitôt enrôlé, le conscrit marche vers sa caserne. La plupart d'entre elles ressemblent à des prisons. On lui fournit alors son uniforme et il doit y subir des heures d'instruction militaire. Au bout de quelques semaines, il est dirigé vers son régiment qui peut être cantonné n'importe où en Europe. La qualification de déserteur s'applique au conscrit qui, soit quitte son convoi qui l'achemine vers son dépôt, soit qui disparaît après un temps passé dans son régiment. Quant à la peine de mort, elle est décrétée contre tout déserteur qui passe à l'ennemi, tout chef de complot de désertion, ou tout déserteur en faction ayant emporté ses armes ou celles de ses camarades. Vraisemblablement, Barthélemy a commis l'un ou l'autre de ces crimes. Des conseils de guerre spéciaux sont établis par la loi du 12 octobre 1803 pour juger des crimes de désertion. Ceux-ci sont constitués, suivant la nécessité, dans chaque régiment et sont exclusivement chargés de poursuivre le crime de désertion commis par les sous-officiers et les soldats de ce corps. En ce qui concerne la procédure, vous pouvez prendre le jugement de Barthélemy Duret et le lire. Celui-ci est très structuré. Référence au cadre légal, composition du conseil spécial, énoncé du principe de récusation, description de l'accusé, cela remplace la photo d'identité, description de la procédure, délibération, énoncé de la peine, modalité d'exécution de la peine. La procédure est minutieusement réglée et se déroule en séance. Il existe également un code des délits et des peines pour les troupes de la République qui distingue les différents délits et leur attribue des peines précises avant de prévenir tout arbitraire. Les condamnations pour désertion consistent, selon les cas, en peine de mort, boulet ou travaux publics et toujours une amende de 1500 francs à recouvrir sur les biens de l'accusé ou de sa famille. La peine de mort implique l'exécution du condamné immédiatement après le prononcé du jugement. Encore faut-il que celui-ci soit retrouvé. Dans d'autres exemples, Barthélemy est jugé par contumace car il n'est pas présent à son jugement. Le jugement doit être notifié à l'administration de l'enregistrement et des domaines du domicile du déserteur ou doit être perçue l'amende. C'est ainsi que les archives d'État de Genève se trouvent en possession d'une copie de ce jugement. La somme de 1500 francs sert d'abord à payer les frais de procédure et l'excédent est consacré à l'enrôlement du remplaçant du déserteur. Nous constatons, avec ce jugement, que la justice militaire est alors strictement réglementée et les jugements rendus témoignent d'une rigoureuse application des lois. Cette période correspond aussi à un grand mouvement de codification, regroupement dans un texte de l'ensemble de dispositions législatives ou réglementaires intéressant une matière, en matière civile ou pénale. Le principe de la légalité des délits et des peines rend effectivement prioritaire la codification du droit pénal. Face à l'inhumanité du droit et de la procédure pénale sous l'Ancien Régime, on réclame alors que la loi fixe précisément les incriminations et les peines. Ces idées inspirent la codification révolutionnaire, Code pénal français de 1791. Ce mouvement de codification se poursuit sous le règne de Napoléon et aboutit à une œuvre capitale. De 1806 à 1810, quatre codes voient successivement le jour. Code de procédure civile, code de commerce, code d'instruction criminelle et code pénal. Partons du principe que Barthélemy n'a pas été retrouvé et qu'il ait vécu longtemps après le départ des Français de Genève. Qu'aurait-il vécu ? Suite à la défaite napoléonienne à Leipzig, Genève est libérée par les troupes autrichiennes et redevient indépendante. C'est une époque agitée qui s'installe jusqu'en 1847. Partout en Europe, l'époque post-napoléonienne est réactionnaire. Elle porte le nom de Restauration car elle espère le rétablissement d'une société similaire à celle d'avant la Révolution. Genève n'échappe pas à cette tendance et se dote, en 1814, d'une constitution qui marque un retour significatif en arrière pour ce qui touche à la souveraineté du peuple. Cela provoque le mécontentement d'une partie de la population et aboutit à la constitution de 1842 qui réintroduit la démocratie représentative. Depuis cette date, les droits politiques des Genevois n'ont cessé de se développer. Genève suit dans ce domaine l'évolution générale du système démocratique suisse. Suite à la guerre du Sonderbund qui amène les radicaux au pouvoir à Genève en 1846, menée par James Fazi, une nouvelle constitution est adoptée à Genève en 1847, maintien de la démocratie représentative. Cette constitution fut celle de Genève jusqu'en 2012. Depuis 1847, les droits des citoyens genevois sont ensuite progressivement étendus, notamment par l'introduction du référendum en 1879 et de l'initiative populaire en 1891. C'est à partir de cette date que Genève put être considérée comme une démocratie semi-directe. Mais il faudra attendre 1960 pour que les femmes aient le droit de vote à Genève, le canton devenant ainsi le troisième à octroyer le droit de vote aux femmes après Neuchâtel et Vaud en 1959, et en 1971 au niveau fédéral. Après la fin de la guerre dite du Sonderbund, la constitution fédérale adoptée en septembre 1848 donne naissance à l'État fédéral. Une constitution fédérale en Suisse remet la souveraineté au peuple et aux cantons, définit et limite les compétences de la Confédération. Les cantons sont donc souverains dans les limites du droit fédéral auquel ils sont subordonnés. L'autonomie des cantons est un aspect fondamental de l'État fédéral suisse. Chaque canton a son propre parlement, son propre gouvernement, ses propres tribunaux et sa propre constitution. Côté judiciaire, le 19e siècle a vu naître le tribunal fédéral. La constitution de 1848 ne prévoyait pas de faire de celui-ci une institution permanente. Aussi, ne jouissait-il pas de compétences limitées et n'était convoqué que lorsqu'une affaire l'exigeait. C'est la constitution de 1874 qui modifia cette situation. Depuis le 1er janvier 1875, la Suisse dispose d'un tribunal fédéral permanent avec son siège à Lausanne. La constitution de 1874 accorda également à la Confédération plus de compétences, notamment en ce qui concerne l'unification du droit civil et pénal au niveau national. Ainsi, l'État intervient-il en promulguant l'entrée en vigueur du Code civil en 1912, par exemple. En ce qui concerne la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, le Code pénal fédéral de 1853 énonça les premières dispositions en la matière. Ainsi, les assises fédérales étaient, par exemple, appelées à connaître de la haute trahison envers la Confédération. La poursuite et le jugement des autres crimes et délits étaient, dans la règle, renvoyés aux autorités cantonales. Au niveau cantonal, plusieurs lois sur l'organisation judiciaire furent adoptées à Genève entre 1816 et 1847, au regard des différentes constitutions qui s'y sont succédées. Ces lois instituant les différents tribunaux, ainsi que leurs compétences, sont présentées à la Bibliothèque centrale. Nous vous invitons à les découvrir. L'évolution de la société mène vers une protection des travailleurs accrue. Les mutations économiques et sociales du 19e siècle, dues en grande partie à la révolution industrielle, provoquent une augmentation de la pauvreté de certaines catégories sociales, ouvrières principalement, et une grande précarité des conditions de travail. Dans ce contexte, des organisations de travailleurs émergent et lutte pour améliorer les conditions de travail des ouvriers en organisant des grèves ou en négociant des conventions collectives. La constitution de 1874 accorde à la Confédération plus de compétences pour organiser le social. C'est ainsi que fut adoptée la loi sur les fabriques en 1877. Au début du 19e siècle, la main-d'œuvre utilisée dans les fabriques est majoritairement peu qualifiée, exécutant des tâches répétitives et le plus souvent mal rétribuées. Ceci surtout au détriment des femmes et des enfants, adolescents, de moins de 18 ans. Ce n'est qu'à partir de la loi de 1877 que, notamment, le travail des enfants de moins de 14 ans est interdit et la journée de travail ramenée à un maximum de 11 heures dans les établissements soumis à la loi. Les règlements de fabrique sont contrôlés par les cantons qui doivent faire appliquer cette loi. Un inspectorat fédéral des fabriques est créé pour veiller au respect des conditions légales. Autre exemple, vers la fin du 19e siècle, les autorités fédérales mettent en place un système d'assurance sociale. Après bien des débats, une loi unique couvrant la maladie et l'accident, l'AMA, est approuvée lors d'un référendum en 1912. Celle-ci sert de base à l'assurance maladie jusqu'en 1994. La filiation est volontaire, mais les cantons sont autorisés à introduire l'obligation totale ou partielle. Ce n'est qu'avec la loi sur l'assurance maladie de 1994, la LAMAL, entrée en vigueur en 1996, que des réformes très importantes sont introduites en la matière. Assurance de base obligatoire, prime indépendante du sexe et subventionnée pour les petits revenus.